Je rappelle que si vous n'avez pas de Bible, nous avons quelques Bibles de prêt qui sont là au bord de la fenêtre. Et avant de lire chapitre 1 ensemble, quelques remarques d'introduction. Après 3 week-ends de convention missionnaire où nous avons tourné nos regards vers l'extérieur, nous avons réfléchi au bien que nous pouvons apporter à notre ville de Toulouse. Nous allons changer un peu de registre et parler de notre église, du fonctionnement interne de notre église. Comme vous savez, notre église grandit depuis quelques temps. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous impliquer dans les ministères de l'église, ce qui nous encourage beaucoup. Et nous voulons gérer cette croissance avec des principes bibliques, avec sagesse. Alors cette année, un des chantiers du conseil, c'est de réfléchir sur la structure dirigeante de cette église, de réfléchir ensemble sur le rôle des responsables, des pasteurs, les anciens, les diacres. Et je me suis dit que organiser et structurer une église, c'est un peu comme fournir des chaussures à mes enfants, à mes garçons. On leur achète des chaussures, des bonnes chaussures, et puis quelques mois plus tard, ils viennent me dire « Papa, il me faut de nouvelles chaussures ». Et je leur dis « Mais non, tes chaussures te vont très bien, on vient de les acheter ». Mais la réalité, c'est que le pied a grandi depuis, ou bien la chaussure s'est fatiguée, s'est usée, ou bien ils commencent une nouvelle activité, donc c'est plutôt une chaussure de foot ou de danse qu'il leur faut, qui n'est pas pareil qu'une chaussure pour aller à l'église, tout ça. Je me souviens, une fois, un de nos enfants bébés était grincheux toute la journée. On ne comprenait pas pourquoi. Et le soir, en enlevant les chaussures, on a vu que ses pauvres petites orteils étaient toutes repliées. Et on s'est dit, eh bien, c'est pour ça qu'elle était grincheuse toute la journée. Ses chaussures sont maintenant trop petites. Alors, quelque part, une église connaît la même chose. Lorsqu'il y a une croissance, le cadre qui marchait bien pendant un temps a besoin d'être agrandi, peut-être. En tout cas, il faut aviser, ajuster, adapter pour que tout le monde puisse avancer et réaliser le potentiel que Dieu a en réserve pour chacun. Et s'il y a un livre de la Bible qui peut nous aider à faire cela, c'est bien 1 Timothée, la première lettre de Paul à Timothée. La plupart des lettres que l'apôtre Paul a écrites dans le Nouveau Testament sont adressées à des églises, l'ensemble d'une église. Mais il y a quelques épîtres, quelques lettres, on les appelle les épîtres pastorales, 1, 2 Timothée et Tite, qui sont adressées à des individus, des hommes, des pasteurs, que connaît Paul, et Paul va leur donner des conseils, un conseil pastoral pour aider les églises dont ils ont la charge à être fidèles, à se structurer, à mettre en place des bons responsables. Et donc 1 Timothée, le sujet de 1 Timothée, c'est vraiment la bonne conduite de l'église, la bonne gouvernance de l'église, comment chacun peut se conduire dans l'église et comment mettre en place des conducteurs qui peuvent bien encourager et bien diriger l'église. Alors avec ces mots d'introduction, je vous invite donc à plonger les regards dans ce premier chapitre de 1 Timothée que nous allons lire ensemble. 1 Timothée chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà. Chapitre 1 de cette lettre que Paul adresse à Timothée pour aider cette église à se structurer, à retrouver une bonne conduite. Et je vais tenter de résumer l'ensemble de ce chapitre par une phrase que voilà affichée. Contrairement aux mauvais responsables, les bons responsables, par leur enseignement et leur exemple, impriment sur l'église une culture de grâce, une culture de l'évangile, et c'est ça qui fait avancer l'œuvre de Dieu dans les cœurs et dans l'assemblée. Voilà comme ça qu'on pourrait résumer les pensées ici dans chapitre 1. Qu'est-ce que je veux dire par une culture de grâce qu'on veut voir dans l'Église? Bien, c'est une manière de vivre l'Église ensemble, c'est une manière de vivre les relations dans l'Église, les enseignements qui sont dispensés, qui est empreinte de grâce et de miséricorde et d'amour, les mêmes que Jésus nous a montré à la croix, les mêmes que nous avons chantés dans la première partie de notre culte. Et cette culture de grâce, d'amour, nous voulons la vivre ensemble. Et les bons responsables peuvent imprimer sur l'Église une telle culture. Alors pour comprendre cette culture de grâce et des bons responsables, voyons trois choses dans ce texte. Le problème à Éphèse, puis la mission de Timothée, et puis l'exemple de Paul. Tout d'abord, le problème à Éphèse, c'était cette grande ville d'Éphèse où Paul avait commencé, lui, l'Église, on lit ça dans les livres des Actes. 10 années auparavant, Paul avait démarré cette Église. Et là, il a eu l'occasion de repasser voir l'Église. Peut-être maintenant, une Église est devenue plusieurs communautés à Éphèse avec différents responsables. Mais quand Paul arrive à Éphèse, 10 ans après avoir commencé l'Église, il a trouvé des personnes influentes qui enseignent des fausses doctrines. Notamment, il les nomme en verset 20, Hyménée et Alexandre, probablement des personnes avec une assez grande autorité dans l'Église, peut-être des pasteurs ou des anciens, puisque Paul lui-même a dû intervenir avec son autorité d'apôtre pour les livrer à Satan. C'est une expression choc de Paul, de la Bible, pour parler de la discipline, d'exclure quelqu'un de la communion de l'Église pour limiter les dégâts du péché et de l'erreur. Et donc, Paul a dû les exclure de l'assemblée. Mais juste après ça, Paul, il a dû continuer son chemin parce qu'il, lui, il avait d'autres chats à fouetter en Macédoine. Alors, il file le bébé à Timothée. Il dit en verset 3, « Je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Donc, peut-être il restait encore des personnes, des hommes et des femmes, influencés par Hyménée et Alexandre, éventuellement, qui continuaient à véhiculer certaines idées, à enseigner certaines fausses doctrines. Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Bien, on ne sait pas exactement, on ne sait pas vraiment, parce que ce n'est pas précisé. C'est dit en verset 3, d'autres doctrines. C'est quoi ces autres doctrines? Paul, dans verset 4, appelle ça des fables, des généalogies sans fin. En verset 6, il parle de vains discours. Vraisemblablement, il s'agit des interprétations déséquilibrées ou farfelues tirées de l'Ancien Testament, de la loi. C'est la Bible qu'ils avaient à l'époque, les Écritures, c'était l'Ancien Testament, la loi de Moïse. puisqu'ils parlent de la loi dans les versets suivants, ils veulent être docteurs de la loi. On a quelques indices aussi dans le chapitre 4 de certains de ces enseignements, notamment, il semble que ces enseignants, ces personnes, interdisaient de manger la viande et de se marier. Disons aux chrétiens que voilà, on est plus spirituel si on ne mange pas de la viande ou si on ne se marie pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir des interprétations douteuses de la loi, de l'Ancien Testament, de la Bible, ils imposaient aux chrétiens certains devoirs qui ne s'y trouvaient pas vraiment dans les Écritures, jusqu'à laisser entendre que par ces comportements, on pouvait mériter la bénédiction de Dieu, le salut, le regard favorable de Dieu. Et pour Paul, ça c'est un problème. Ça c'est le problème à Éphèse. Il va dire la loi est bonne, oui, l'Ancien Testament est bon. C'est pour dénoncer le péché, c'est pour montrer les mauvais comportements de l'homme. C'est pour convaincre des gens qu'ils ont besoin de Dieu. Il fait la liste de tous ses comportements, de ses péchés. Et effectivement, la loi, l'Ancien Testament, comme le Nouveau, rappelle que ces choses sont contre Dieu, ne plaisent pas à Dieu. Mais il va rappeler à Timothée et à cette église que la loi ne peut pas changer les cœurs. Et si par leur enseignement, les responsables mettent l'accent premier sur telle ou telle loi ou tel devoir, alors ça ne va pas avancer l'œuvre de Dieu, ça ne va pas transformer les cœurs. Je me dis, c'est comme un panneau stop. Vous connaissez le panneau stop rouge, vous en avez certainement croisé ce matin en venant à l'église. Ça, c'est la loi, il faut arrêter au carrefour quand il y a un panneau stop. Mais comme vous savez, un panneau stop n'a aucune puissance à freiner, à arrêter votre voiture. Aucune puissance à arrêter votre voiture. Moi, un jour, j'ai trouvé un panneau stop au bord de la route. Abandonné, jeté, je sais pas, il était un peu cabossé. Il n'y avait pas de poteau, alors je l'ai pris. Je l'ai pris chez moi et maintenant il fait partie d'une décoration murale dans le sous-sol de notre maison. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne devise pour l'éducation de mes enfants? Je me demande. Parfois j'ai envie de dire voilà, stop, ça résume ce que. Mais c'est pas tout à fait ça. Une devise pour l'éducation de nos enfants, ni pour la vie, ni pour... Et même pour obéir la code de la route, je peux multiplier des panneaux stop dans ma vie, je peux les afficher dans ma maison, je peux les mettre beaucoup plus souvent sur la route, mais ce panneau-là ne va pas arrêter ma voiture, ne va pas freiner ma voiture. Et même si je mets des panneaux stop tous les 5 mètres sur la route, les gens risquent de même s'arrêter encore moins. Parce qu'ils sont agacés par tous ces panneaux stop. Ce qui arrête la voiture, c'est le conducteur à l'intérieur de la voiture qui appuie sur le frein volontairement parce qu'il sait que c'est la meilleure chose à faire, c'est parce qu'il veut aimer son prochain, ne pas lui rentrer dedans dans la circulation. C'est ça qui arrête une voiture, le conducteur qui appuie sur le frein, pas la loi, pas le panneau stop. Et à Éphèse, le problème à Éphèse, c'est... comme si ces enseignants, ces personnes, pour viser la transformation du cœur, ils multipliaient les panneaux stop. Parfois des drôles d'interdictions. Pas de viande, pas de se marier. À partir de peut-être de la manière qu'ils lisaient certains passages de l'Ancien Testament, certaines généalogies, certains livres prophétiques comme Daniel ou autres. Et Paul trouve ça que c'est pas une bonne manière d'enseigner. Et comme vous savez, cette manière d'enseigner ne se limite pas juste à l'Ancien Testament. Dans une église, on peut établir des lois. Souvent, c'est des lois non dites, non écrites. Mais par exemple, qu'il n'y a qu'une seule façon d'éduquer les enfants. Ou qu'il y a une seule façon de faire de l'évangélisation. Où il n'y a qu'une seule manière de viser la croissance de l'Église, où il n'y a qu'une certaine manière de chanter qui nous rend, nous, plus agréables à Dieu que si d'autres font différemment. Vous voyez, c'est une manière d'imposer des devoirs, de créer une ambiance avec ces lois. Mais Paul voit bien que ça produit des discussions, ça produit des disputes, ça ne produit pas la vraie transformation du cœur. Donc Paul a repéré ce problème à Éphèse et maintenant il va donner une mission à Timothée en lui écrivant cette épître. Et nous allons voir quelle est cette mission. On trouve ça en verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine afin de recommander à certaines personnes. Et puis verset 5, le but de cette recommandation est encore verset 18, la recommandation. Ce mot recommandation, c'est commandement, comme des ordres venant d'un général, une mission. Donc Timothée, il a une mission et sa mission, c'est de recommander à ces personnes de ne pas enseigner comme ça, de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alors la mission de Timothée, ça va être de soit coacher ces personnes pour qu'ils remettent l'évangile au centre de leur enseignement, comme il dit en verset 11. Il dit, si vous enseignez la loi, si vous enseignez la Bible, si vous enseignez l'Ancien Testament, il faut que même ça, ça soit conforme, verset 11, à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Donc Paul est en train de dire à ses enseignants, ils n'ont pas compris même le but de la loi, le but de l'Ancien Testament, ils en font mauvais usage. Le bon usage, c'est que ça nous conduit à l'Évangile. Et pour reprendre l'image de la voiture, l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus, il vient dans notre vie, il s'installe dans notre vie, dans notre cœur, il prend le volant de notre voiture, il nous pardonne pour nos fautes, il paye toutes nos amendes et nos contraventions que nous avons amassées, il les paye lui à la croix, et puis il prend le volant et c'est lui qui conduit nos vies, c'est lui qui conduit la voiture et il produit l'obéissance. Donc il arrête quand il faut arrêter, il avance quand il faut avancer et c'est lui qui nous donne cette nouvelle motivation de vivre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que juste un panneau stop. C'est Jésus qui est là, qui donne nos vies et qui opère ces choses. Et lorsqu'on enseigne la Bible, des enseignants, des responsables, c'est ce message qu'il faut véhiculer dans l'Église. Donc Timothée va devoir coacher ces personnes pour qu'ils voient plus clair, ou bien peut-être même les remplacer, parce que dans la suite du livre, la mission de Timothée va être d'aider cette Église à repérer, à choisir des bons responsables, des anciens et des diacres qui ont une vie, qui ont un caractère imprégné de l'Évangile, qui comprennent ce qui transforme les vies, que c'est ce message de grâce et non pas des interdictions, non pas des généalogies obscures, non pas des sites web marginaux qui calculent à la seconde près le retour de Jésus-Christ d'après trois versets tirés par les cheveux dans Ézéchiel. Ce qui transforme les vies, c'est quand c'est un enseignement qui est conforme à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et si Timothée arrive à accomplir cette mission, ça va permettre de rétablir une culture saine dans cette église, dans ces églises, une culture de grâce. Et c'est ce qu'il dit, c'est le but, d'après verset 5. Il dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quand il y a un bon enseignement venant des responsables qui enseignent l'Évangile, eh bien ça produit dans l'Église cette ambiance où il y a beaucoup d'amour, où on manifeste l'amour les uns envers les autres, venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors que les fausses doctrines et les idées déséquilibrées, les idées légalistes, ils ont tendance de produire tout le contraire, pas de l'amour, mais des méfiances. Pas des cœurs purs, mais des cœurs orgueilleux. Pas des consciences, bonnes consciences, mais des consciences troublées. Pas d'une foi sincère, mais une foi hypocrite. Je me suis imaginé une conversation entre deux Éphésiens mal enseignés que je vous livre maintenant. Alors, il se trouve dans la semaine, un Éphésien mal enseigné dit à l'autre, tu sais quoi, j'étais au centre commercial cette semaine et j'ai vu Benoît sortir de Burger King. Oh, ah bon? Tu crois qu'il a mangé de la viande? Oui, il faut vraiment prier pour lui en ce moment. Mais moi, je rends grâce à Dieu. Moi, j'ai jamais touché un hamburger, moi. Vous voyez l'attitude qui peut s'installer. Le problème avec cette conversation, cette attitude, ce n'est pas une culture de grâce. pour plusieurs raisons. Une raison, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi Benoît est sorti de Burger King. Peut-être il était allé pour parler à un collègue. Peut-être il est passé pour utiliser les toilettes. Peut-être il travaillait sur un chantier sur place. Ça, c'est un problème. Ils savent pourquoi. Ils jugent trop facilement. Deuxième problème, c'est que la Bible n'interdit jamais de manger de la viande. Ça, c'est ces enseignants qui ont inventé ça. Je peux imaginer, il y a Daniel chapitre 1, ils n'ont pas voulu manger la viande parce qu'ils étaient à Babylone. Quelqu'un interprète ça en disant, voilà, les fidèles ne mangent jamais la viande. Mais c'est mal comprendre Daniel et le contexte dans lequel il était, le contexte juif. Donc, ils soupçonnent le mal, ils ne comprennent pas tout, ils interprètent mal la Bible. Et peut-être le pire, c'est en ce moment, pendant la conversation, ils sont en train de se convaincre que Dieu les aime, Dieu les bénit, parce que eux, ils font pas ça. Parce que eux, ils sont différents, parce que eux, ils sont meilleurs. Et quelque part, ils trouvent leur confort, leur sécurité, le salut, pas dans l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais dans le fait qu'ils ont un comportement qui diffère d'un autre. Et cette ambiance dans l'église est mortelle, est néfaste. Si nous vivons comme ça, c'est pas bon. Alors, c'est pour ça que Timothée a la mission de changer ces enseignements et ces attitudes pour que l'Église retrouve cet amour venant des cœurs purs et d'une bonne conscience d'être pardonné et d'une foi sincère. Donc voilà la mission de Timothée. Pour aider Timothée à accomplir sa mission, Paul va le rappeler son propre exemple. Et ça, c'est les versets suivants, les versets 12 à 16, c'est mon dernier point. L'exemple de Paul. Paul, à partir du verset 12, il raconte son histoire, son témoignage, son parcours à Timothée. Ça m'a étonné un peu. Timothée devait très bien connaître le témoignage et la vie de Paul. Ils ont passé des années ensemble. Pourquoi il rappelle à Timothée ce que lui-même a vécu. Ben, s'il le rappelle, c'est pour dire à Timothée, et pour le dire à toute cette église, pour rappeler, tu sais, Timothée, ce qui m'a transformé, c'était pas des chiffres secrets qu'on trouve dans les généalogies, d'après les chiffres et les nombres. C'était pas l'interdiction de se marier. Paul n'était pas marié, mais il n'en a pas fait une loi. Ce qui m'a transformé, c'était pas l'interdiction de ne pas me marier ou mon célibat, c'était pas ça qui m'a transformé. C'était pas de couper couper les cheveux en quatre théologiques qui m'a transformé. Ce qui m'a transformé, c'est la grâce. C'est que moi-même j'étais gracié. Ce qui m'a transformé, c'est quand j'ai compris, quand j'ai découvert l'évangile, quand j'ai découvert la miséricorde de Dieu, le pardon que Jésus m'a montré. Et Paul dit, c'est ce message que je veux véhiculer par ma vie et mon enseignement. Et quand je viens dans une église pour être responsable, je sais que ma vie sert à enseigner la grâce de Dieu. Paul est conscient qu'il enseigne surtout par l'exemple que Dieu a fait de lui de pardon et de grâce. C'est ce qu'il dit en verset 16. « J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité » pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et puis il dit en verset 15, peut-être une résumé connu ou une confession de foi connue de l'Église à l'époque. Mais verset 15 résume bien le message de la Bible. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Si vous étudiez la Bible, toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et que vous arrivez à cette conclusion, cette parole certaine, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, eh bien là, vous avez compris, vous avez tout compris. Si vous étudiez la Bible et vous n'arrivez pas à cette conclusion, vous n'avez pas compris la Bible et vous n'êtes pas prêt à enseigner encore les autres. Mais ça, c'est ce que Paul a compris et ce qu'il voulait transmettre dans toute sa vie, dans tous ses enseignements. Je pense à nos politiciens, à nos dirigeants qui sont élus, souvent pour se faire élire, ils disent « Je suis le meilleur, je suis le premier, je suis plus fort que l'autre. » Mais Paul, il dit « Ce qui me qualifie d'enseigner et de diriger, c'est que j'étais le pire. » mais j'ai été gracié. Et quand les gens me voient, ils voient une illustration vivante de la grâce. Et je veux enseigner ça par ma vie. Et j'aime bien tellement il est émerveillé par ce que Dieu a fait dans sa vie, là. Il rappelle à Timothée son parcours, qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, qu'il a connu la grâce. Et puis, en verset 17, au milieu de ce chapitre, il éclate en louange. Verset 17, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Et puis, il reprend sa pensée, la mission qu'il lui a donnée à Timothée. Mais on voit ce qui passionne Paul, on voit ce qui le fait éclater en louange. C'est pas le fait de pas manger la viande. C'est pas des passages obscurs de l'Ancien Testament. C'est l'expérience qu'il a fait de la grâce de Dieu. Et il sait que cette grâce est encore offerte à d'autres pour les transformer et les aider à vivre dans la pureté, dans la sainteté. Et je dirais que de la même manière, on reconnaît les bons responsables avec cette même qualité. Ils sont passionnés par ça. Ils sont passionnés par ce parcours de grâce que nous avons vécu. Leur champ d'expertise, c'est ça, c'est l'Évangile. Leur souci est de veiller à ce que rien ne cache ou ne compromet ce message. Parfois, ils peuvent être stricts ou sévères, mais pour préserver, protéger l'Évangile, et c'est ce que Paul lui-même a fait. C'est vrai qu'il a dû, être sévère envers Hyménée et Alexandre, mais c'était pour préserver cette culture de grâce et d'amour dans l'Église. Et donc, il termine ce chapitre en encourageant Timothée. C'est un peu la même mission, à combattre le bon combat. Et pour l'apôtre Paul, le bon combat, c'est ça, c'est garder l'Évangile au centre. C'est ne pas se tourner vers autre chose que Jésus-Christ pour le salut et pour être agréable aux yeux de Dieu. Et c'est le combat est là pour nous, pour notre Église, et ce que nous voulons vivre. Alors, oui, nous voulons ensemble prier et demander à Dieu de nous conduire encore dans des mois à venir, dans ces réflexions sur le choix de nos responsables. Je rends grâce à Dieu pour les frères qu'il accorde à cette Église, pour vous tous qui sommes attachés à l'Évangile. Et cette épître va nous aider. Je vous montre juste le dernier verset de l'épître pour terminer. C'est vrai que Paul, dans tout ça, il a parlé à Timothée en tant que pasteur. Et il y a des applications directes pour les responsables de l'Église dans ce livre. Mais à la toute fin, vous voyez la dernière phrase du livre. Il dit « Que la grâce soit avec vous ». Donc, c'est pas que adressé à Timothée, c'est adressé à tous. C'est une lettre ouverte. Donc, il écrit à Timothée, mais il veut que toute l'Église entendent et écoutent. Et ça montre que de s'intéresser, de prier, de rechercher la bonne conduite dans l'Église, les bons responsables, c'est l'affaire de tous. Puisque c'est vous, d'abord, l'Assemblée, qui nommez, qui élisez vos responsables, d'où l'intérêt d'étudier ce livre. Et c'est aussi vous, parmi vous, qui vont venir les futurs responsables de l'Église. Et donc, on a tous intérêt à comprendre, à saisir ce livre ensemble, que Dieu nous aide. Et qui nous bénisse, qui nous garde près de l'Évangile tout au long de notre service chrétien, de notre enseignement.